Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Merci beaucoup, Olivier. Tu nous fais du bien avec ton ministère. Nous sommes à l'église pour se faire du bien, mais aussi pour faire du bien au Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur nous fait du bien. On fait aussi du bien à lui par notre louange et notre adoration. Merci d'avoir choisi d'être à l'église ce matin. On a chanté le chant qui dit « De tout mon être, alors se lève un chant. » Vous ne m'avez pas convaincu. Tout mon être, c'est-à-dire tout, mes cordes vocales, mon énergie, ma force, mes pensées, mon esprit, mon cœur, mes émotions, de tout mon être, alors se lève un chant de louange et d'adoration. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, les chrétiens ne racontent pas des mensonges, ils les chantent. On ne veut pas chanter de tout mon être, alors se lève un chant de louange et d'adoration. Et pas vraiment le faire de tout notre être. Moi, je crois qu'avec le nombre de personnes qu'on est ce matin, que si on le fait vraiment de tout notre être, on va lever le toit de sur cette église. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Tout. Je peux servir de mes mains, de mes pieds, de ma voix, tout mon être, tout ce que je suis. Il y a un chant qui se lève. C'est pour ça que je suis ici ce matin, parce que j'ai un chant à l'intérieur de moi pour louer, adorer, acclamer, rendre grâce au Seigneur avec tout mon être. Et on a donné une bonne main d'applaudissement à Olivier qui mérite pour son ministère. Mais moi, j'aimerais qu'on peut juste prendre un instant pour de tout notre être acclamer le Seigneur. On va le donner, on va le faire ensemble en ovation debout avec un cri de joie, avec des applaudissements et de tout notre être. Par la suite, j'aimerais qu'on puisse rentrer juste dans un instant de louange, d'adoration, de tout notre être. Un cri de joie, une ovation, un applaudissement, mais par la suite, qu'on peut juste spontanément, pas de musique, rien, pas de chant sur l'écran, mais juste d'une façon spontanée, tout notre être. Ça veut dire avec vos pensées aussi, que vos pensées ne soient pas ailleurs, mais vraiment ici, dans cette salle, pour louer, adorer le Seigneur, qui est un témoin de tout ce qu'on fait ici, qu'on peut juste avoir un instant d'adoration de tout notre être et laisser un chant se lever à l'intérieur de vous pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et je vais donner une bonne main d'applaudissement avec un cri de joie et d'action de grâce de tout notre être, toutes mes forces, toute mon énergie, avec enthousiasme, avec mes cordes vocales, avec mon cœur, avec mon esprit, avec mes mains, avec ma langue, je te loue, Seigneur. Je t'adore de tout mon être, tout ce qui est en moi, toute mon énergie te loue et t'adore, car tu es digne de louange et d'adoration. Tu mérites ces cris de joie, tu mérites ces applaudissements, tu mérites, Seigneur, mon adoration. Mes pensées, mon cœur, ma force, ne n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Béni soit ton nom, Jésus. Digne de louange, tu es témoin de tout ce qu'on fait ici. À toi seul la gloire et l'honneur et la louange. De tout notre être, lève un chant ce matin. De tout notre être, s'élève un chant de louange, d'adoration. Tout ce qui est en nous. Alléluia. Alléluia. David a dit, le roi David a dit, mon âme, il a parlé à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Levons nos mains, nos voix pour un moment d'adoration envers le Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénissons le Seigneur avec notre âme ce matin. Levons nos voix, nos mains vers le Seigneur comme une grande chorale de louange et d'adoration, d'une façon spontanée. Exprimez votre adoration, exprimez votre appréciation. Servez-vous de vos propres paroles pour dire, « Seigneur, je t'adore, je te loue, je veux te bénir, je veux te faire du bien ce matin. Mon âme, tout ce qui est à l'intérieur de moi, ma force, mon cœur, mes émotions, mes pensées, bénis l'Éternel, car il est digne de louange et d'adoration. » Comme une grande chorale d'adoration, d'en arrière jusqu'ici en avant, même si vous n'êtes pas habitué de le faire, essayez de bénir le Seigneur. Servez-vous de vos cordes vocales, de vos pensées, de votre propre expression, de votre imagination pour louer le Seigneur. Il règne en beauté, en majesté, en puissance. Il est plein, rempli de sagesse, de miséricorde, de compassion et d'amour. Sa fidélité dure à toujours. Grande est sa fidélité. Ses miséricordes et ses compassions se renouvellent à tous les jours. Béni soit le nom du Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, sur terre et dans les cieux. Toi seul la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration. Hallelujah. Seigneur, reçois ces adorations bien méritées. Reçois cette réunion, cette prédication, notre attention. Ces moments qu'on te donne ce dimanche matin, c'est des moments donnés à toi pour ta gloire et ton honneur. Reçois cette réunion comme une action de grâce, comme une adoration envers toi, bien méritée. On est reconnaissant, Seigneur, pour qui tu es, tout ce que tu fais. Je te rends grâce pour cette Église, pour cette famille de Dieu, pour chaque homme, femme et jeune qui est ici, enfant. On réclame l'onction de ton Saint-Esprit pour ces moments d'instruction, d'enseignement. Que ce soit comme une semence implantée dans nos cœurs qui va faire une différence, Seigneur. Garde-nous alerte, attentif, réveillé, réceptif à ta parole. Glorifie ton nom à travers tout ce qu'on fait. Donne une onction à moi pour le communiquer, une onction à chaque personne ici pour l'entendre. Prends entendre ce que ton esprit dit à l'Église ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ pour ta gloire et ton honneur. Et tout le monde dit Amen. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, si vous avez votre Bible, regardez avec moi à l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Vous pouvez suivre dans votre Bible si vous voulez, sinon tous les passages vont être sur l'écran. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Il y en a plusieurs descriptions qui sont données à ce chapitre dans votre Bible. Il y en a qui appellent ça le temple de la renommée de la foi. Il y en a d'autres qui appellent ça les témoins de la foi. Dans ma Bible, c'est marqué les témoins de la foi. Il y en a d'autres qui appellent ça les héros de la foi. Et j'aimerais ce matin terminer ce que j'avais débuté il y a quelques semaines, un dimanche matin et un dimanche soir, au sujet de l'essence de la foi, la nature, les caractéristiques de la foi, pour découvrir c'est quoi la vraie foi. C'est quoi la vraie foi? Comment que la foi se vit? Comment que la foi se manifeste? Non la croyance, mais la foi. Souvent, on mélange les deux. Il y en a beaucoup qui pensent, mais c'est des termes interchangeables. La foi, la croyance, c'est la foi, c'est la croyance. Mais il ne faut pas mêler ces deux choses-là, parce qu'il y a une différence vaste entre une simple croyance et la foi. N'importe qui peut croire en Dieu. C'est facile croire en Dieu. Exercer la foi demande un effort. Une croyance en Dieu est difficile à vérifier. Vous pouvez me dire que vous croyez en Dieu, et c'est bien, mais j'ai aucune façon pour savoir si c'est vrai. Ce n'est pas vérifiable. Il n'y a pas d'évidence de cela, mais vous dites, bien, je crois en Dieu. C'est correct, c'est bien, mais on ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai, oui ou non. Mais la foi est vérifiable. On peut vérifier la foi parce que la foi se manifeste tangiblement, concrètement, visiblement, quotidiennement. La foi se manifeste. Si vous disiez, Pasteur Marc, j'ai la foi, pas une croyance, mais la foi, je vais voir l'évidence de cela. Ça va être quelque chose que je vais être capable de vérifier, d'examiner. L'évidence va être là dans votre vie. Parce que la foi, contraire à la croyance, la foi est vérifiable et visible. C'est quelque chose qu'on voit par des actions et des attitudes. Jacques, dans son épître, il a dit la même chose de cette façon. Jacques 2, 17 à 20, il dit, « Il en est ainsi de la foi. » Écoutez comment il lui décrit la foi, la différence entre la foi et la croyance. « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Jacques, quand il parle de la foi, il dit, c'est quelque chose qu'on peut démontrer. C'est quelque chose qu'on peut manifester. Il dit, montre-moi ta foi, ou moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, sans l'évidence, sans quelque chose de concret, est inutile. Alors, selon Jacques, la foi non évidente est morte et inutile. Ça veut dire que si vous donnez à rien, si vous faites à rien, si votre vie n'est pas différente que ceux à l'extérieur de l'Église, vous avez une croyance, mais non une foi. La personne qui vit dans la désobéissance, qui pratique le péché, mais se justifie en disant, puis on entend ça souvent, les gens vont vivre dans la désobéissance, ils vont vivre contraire à la parole de Dieu, ils vont pratiquer le péché, mais ils vont dire, « Oui, mais Pasteur Marc, je crois en Dieu. Au moins, j'ai une croyance en Dieu. Je crois que Dieu existe et ça suffit. » Pas selon Jacques. Il dit que c'est pas, ça suffit pas juste de dire « je crois en Dieu ». Il dit « si vous pratiquez le péché et vous dites « mais je crois en Dieu », vous n'êtes pas mieux qu'un démon. » Pasteur Marc est un peu sévère ce matin. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. C'est là. Il dit, vous dites, vous avez la foi, mais vous pratiquez pas la foi. Il dit, mais vous avez une croyance, les démons croient aussi. Mais il dit, c'est pas la croyance qu'on cherche, c'est la foi. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ici à l'Église? Ce n'est pas faire des croyants. Comprenez cela. La raison pour l'Église Nouvelle Vie n'est pas pour faire des croyants. Croyants, c'est facile. Nous voulons faire des personnes de la foi. Nous voulons voir des gens qui exercent la foi, qui pratiquent la foi, une foi qui se manifeste, une foi qui est visible, une foi qui est évidente, comme Jacques le décrit ici. La raison pour ça, c'est parce que ce n'est pas la croyance qui plaît à Dieu, c'est la foi qui plaît à Dieu. Parce que même les démons croient, mais ils ne plaisent pas à Dieu. La croyance n'est pas nécessairement agréable à Dieu, c'est la foi qui est agréable à Dieu. C'est la raison pourquoi qu'on veut apprendre et pratiquer la foi. On veut découvrir l'essence de la foi selon la Bible parce que nous voulons faire du bien à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Combien ici croient que Dieu est bon? Pour combien Dieu vous fait du bien? Combien aimerait faire du bien à Dieu? Si Dieu nous fait du bien, nous voulons faire du bien à Dieu. Et c'est possible de lui faire du bien. Et une des raisons pourquoi que nous avons la Bible et pourquoi que nous lisons la Bible, c'est pour savoir et apprendre comment lui être agréable. La Bible nous décrit comment qu'on peut faire du bien à Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu recherche? La Bible répond à ces questions-là. Vous voulez faire du bien à Dieu? Vous voulez avoir une vie agréable à Dieu? Vous pouvez découvrir comment être agréable à Dieu dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vous encourage d'avoir une Bible, d'étudier votre Bible, de lire votre Bible. Et c'est pour ça qu'on enseigne et prêche la Bible ici à l'Église Nouvelle Vie, parce qu'à l'intérieur de la Bible, on découvre non comment croire en Dieu, mais comment exercer la foi, une foi qui fait du bien à Dieu. Et ce qu'on apprend, selon Hébreux chapitre 11, verset 6, une chose qu'on apprend, une des choses que Dieu trouve agréable, c'est la foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qui veut dire, la foi est agréable à Dieu. Ça, c'est quelque chose que Jésus nous démontre aussi. Quand il marchait sur la terre, on lit dans les évangiles, combien de fois que Jésus arrêtait sur le chemin pour remarquer, noter, souligner la foi de quelqu'un. S'il y a quelque chose qui a capté l'attention de Jésus, s'il y a quelque chose qui a impressionné Jésus, c'était la foi. Et combien de fois qu'il admirait la foi? On a un exemple en Luc 7, verset 9, avec le centenier romain, où c'est décrit de cette façon. Lorsque Jésus entendit ces paroles, quelles paroles? Des paroles de la foi. Il admira le centenier. Et il se tournait vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Qu'est-ce que Jésus admire? Il admire la foi. Combien admire Jésus ici ce matin? Combien aimerait être admiré par Dieu? Une admiration mutuelle, c'est possible! Parce que ça nous dit, Jésus admirait cet homme-là. Il est possible que Jésus puisse avoir une admiration pour nous. Il est possible qu'on puisse impressionner Jésus. Et on impressionne de quelle façon? On l'impressionne quand on pratique la foi. Ça fait une admiration mutuelle. Vrai ou faux? Hein? C'est là, il l'admirait. Par rapport à la foi, plus que rien d'autre. C'est la foi qui impressionne Jésus. C'est pour ça qu'on veut découvrir ensemble l'essence de la foi, la nature de la foi. Parce que la foi nous donne deux choses que nous recherchons. Premièrement, un bon témoignage. Et deuxièmement, une vie agréable à Dieu. Tout le monde ici cherche ces deux choses, j'imagine. C'est pour ça que vous êtes à l'église. Vous voulez être un bon témoignage. Vous voulez vivre une vie agréable à Dieu. La foi nous donne ces deux choses. Hébreux chapitre 11, verset 2, il dit, « Pour l'avoir possédé, posséder quoi? Posséder la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Nos anciens ont eu un témoignage favorable parce qu'ils ont possédé la foi. C'est la même chose que nous voulons posséder. Et encore, Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » L'écrivain n'a pas dit que c'est difficile sans la foi. Il a dit, c'est impossible sans la foi. Peu importe le nombre de fois que vous venez à l'Église, peu importe le nombre de versets que vous mémorisez, peu importe la vie disciplinée que vous menez, peu importe le niveau de votre sanctification ou le nombre de prières de repentance que vous faites dans une semaine, sans ajouter la foi avec tout ça, il est impossible de plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu autrement que manifester et exercer la foi. C'est pour ça que si nous voulons apprendre, si nous voulons plaire à Dieu, il faut apprendre l'essence de la foi. Et c'est pour ça qu'en Hébreux chapitre 11, l'écrivain prend la peine de nous décrire la foi par une série de capsules, d'images tirées des personnes bibliques. Moi, j'appelle ça la version Reader's Digest de l'Ancien Testament. C'est la version condensée des personnages dans la parole de Dieu. Il prend l'ensemble de tous leurs exploits, toutes leurs aventures, leurs vécus, leurs expériences, et tire de cela une chose, la chose qui décrit la foi chez ces personnes. Il nous donne la définition dans le premier verset, et par la suite comme un artiste, comme une photographe qui essaye de capturer le moment par une image tirée de leur vie. Il nous donne juste des captures, juste des images un peu photographiques. Voici la foi. Ça, c'était la foi chez Abraham. Ça, c'était la foi chez Moïse. Ça, c'est la foi chez un autre, parce qu'il sait qu'une image vaut mille mots. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire ici ce matin? C'est vous donner une image qui vaut mille mots. Une image qui est tirée d'Hébreux chapitre 11, qui nous décrit la foi. Et qu'est-ce qui est remarquable au sujet de la foi dans Hébreux chapitre 11? Que c'est rien d'extraordinaire. Ce n'est pas pour des super-héros spirituels et puissantes. C'est quelque chose de très pratique, très quotidien, très faisable. Ça veut dire qu'il est possible pour vous et moi de pratiquer cette foi agréable quotidiennement. Ce n'est pas trop vaste ou trop grand pour vous et moi. La foi est pratique. Ça se manifeste par des gestes, par des attitudes un peu différentes que la normale. Mais chaque personne, écoutez-moi, toute personne ici, vous pouvez posséder une foi comme les héros de la foi. Vous pouvez exercer cette foi. Vous pouvez pratiquer cette foi sans exception. C'est une possibilité pour tous et chacun, peu importe votre acheminement spirituel ou nombre d'années que vous êtes à l'Église. C'est tout simplement une question de volonté, de choix, de détermination. Et c'est nulle part plus évident qu'en Hébreux chapitre 11, surtout la capsule tirée de la vie de Jacob, où ce que je vous propose, comme j'ai dit la dernière fois, trois éléments essentiels pour exprimer la foi. Je vous propose comment la foi agréable est exprimée par trois choses, trois attitudes ou trois gestes qu'on peut pratiquer à tous les jours qui expriment la foi qui est agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est par la foi, juste une capsule de toute la vie, les histoires, les aventures de Jacob. Il s'agit juste une image, une histoire dans sa vie, et c'est comme ça qu'il décrit la foi. Il dit, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est un événement qui communique des volumes au sujet de la foi. Premièrement, pour récapituler un peu la dernière fois, le premier élément, la première caractéristique de la foi que nous voyons ici, c'est une reconnaissance inébranlable. La foi se manifeste par une reconnaissance inébranlable. Avez-vous remarqué qu'est-ce que ça dit? Ça dit « mourant, il adora ». La foi authentique et véritable est démontrée par la capacité d'adorer et louer et rendre grâce et bénir quand on a l'impression qu'on meurt. Soit littéralement, physiquement, socialement, spirituellement, émotionnellement, on adore même mourant. Même si on a l'impression qu'on est en train de mourir et tout est en train de mourir autour de nous, on trouve la capacité d'adorer et de bénir le Seigneur quand même. Adorer quand tout va bien, ça c'est la foi des novices. Ça c'est pour les débutants ça. C'est facile d'adorer puis rendre grâce au Seigneur quand tout va bien, mais les héros de la foi, c'est ceux qui bénissent et qui adorent quand ça va mal. C'est d'adorer quand la pression est intense, c'est de rendre grâce dans un état de faiblesse et vulnérabilité, comme Jésus l'a fait. On l'a pris la dernière fois. Jésus a rendu grâce. Jésus a adoré face à l'impossible, face au rejet, face à la douleur, face à la persécution et la mort. Un autre exemple de cela, c'est Étienne, et ça vaut la peine de revisiter l'histoire d'Étienne en Actes chapitre 7. Étienne qui a manifesté une grâce extraordinaire dans une situation extrêmement intense et difficile. Suivez avec moi, Actes chapitre 7, l'histoire d'Étienne. Remarque cet homme remarquable. En attendant ses paroles, il est entouré de gens hostiles, des gens agressifs, violents. Mais remarque son attitude à travers tout cela. C'est pour ça qu'on l'appelle un homme de foi. En entendant ces paroles, ils, la foule, étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais, malgré cela, Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixé les regards vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et en se bouchant les oreilles. Ça, c'est la réaction des gens quand Étienne dit, « Je lève les yeux vers le ciel et je vois le Seigneur. » Les gens, ils bouchaient leurs oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul était plus tard pour devenir Paul. Il était témoin de cela. Est-ce que c'est possible que Étienne avait une influence sur Saul? Est-ce que c'est possible que Saul voyait l'attitude d'Étienne, sa grâce, son action de grâce, son adoration, et c'est ça qui a amené la conviction sur Saul pour que plus tard, il ait son propre expérience avec le Seigneur? Parce qu'on sait que Paul était témoin de cela. Et les gens, ça dit, ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'est cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Nous voyons ici la foi manifestée par la capacité de dégager la grâce face à la pression intense, face à l'injustice, face à l'incompréhension, face à la mort et la douleur. La foi lève les yeux vers le ciel et préserve la face d'un ange. En Actes chapitre 6, ça le décrit de cette façon, « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin et ont fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » La foi dégage un esprit de pardon devant l'injustice. Ça dégage le visage d'un ange devant l'hostilité. Ça dégage, ça refuse l'amertume, ça les refuse la rancune, ça refuse la vengeance, ça refuse de garder un esprit de manque de pardon à l'intérieur. Mais la foi, même dans les situations les plus pénibles et difficiles et douloureuses, il va regarder et préserver la face d'un ange. Il va rayonner la gloire du Seigneur. Il va lever les yeux vers le ciel et ils vont dégager un esprit de pardon qui n'est pas logique. Il dit, malgré l'injustice, malgré la douleur que les gens faisaient, il dit quoi? Seigneur, pardonne leur offense. On appelle ça en anglais « grace under pressure », la grâce sous la pression. Et les hommes et les femmes de grande foi sont des hommes et des femmes qui sont capables de lever les yeux vers le ciel quand ça va difficile. Combien sont d'accord avec moi qu'il faut qu'on apprenne à plus souvent fixer nos regards vers le ciel quand ça va mal autour de nous? Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça, c'est la foi. On ne regarde pas les circonstances, on regarde vers celui que les circonstances entre ses mains, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous ces hommes et foi comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Levez les yeux vers le ciel. Leve-là la foi héroïque, une foi qui regarde vers le ciel quand tout va mal. Étienne a exercé une foi qui a tellement béni Jésus et capté son attention qu'il s'est mis debout. Selon Hébreux 1 et 10, Jésus, normalement, il est assis. Mais là, il était debout parce qu'il a capté son attention. Il était là pour recevoir Étienne. Il a dit à tous les anges, « As-tu vu la foi de cet homme-là? La grâce, la foi. » Il lève les yeux vers le ciel. Le pardon qu'il exerce, ça, c'était une foi qui était agréable à Dieu. Reconnaissance inébranlable. Edith Schaeffer, qui est l'épouse de l'écrivain renommé Francis, a parlé dans un de ses livres de ce qu'elle appelle les deux salles de trophée de Dieu. Il y a une salle pour ceux qui ont été malades, qui ont recherché Dieu et qui ont reçu leur guérison. Elle appelle ça les trophées de puissance. Mais à part d'une deuxième salle de trophée de Dieu, qui est pour ceux qui recherchent encore une guérison et qui ne sont pas encore guéris, mais demeurent fidèles à Dieu et l'aiment et l'adorent quand même. Et elle appelle ça les trophées de la foi. On peut être un trophée de la puissance ou on peut être un trophée de la foi. Que veut dire, même si on n'a pas obtenu ce qu'on cherche de la part de Dieu, on va pas bouder, on va pas critiquer, on va pas être découragé, mais on va faire comme Jacob, qui mourant, il adora le Seigneur. Seigneur, fais de moi soit un trophée de puissance ou un trophée de la foi. Mais peu importe, tu es digne de louange et tu es digne d'adoration et je vais toujours garder mes yeux vers le ciel. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La capacité, mourant, il adora. Deuxièmement, qu'est-ce qui est décrit dans cette image-là, ce capsule sur la vie de Jacob? Deuxième chose, deuxième élément de la foi, c'est non seulement une reconnaissance inébranlable, mais c'est une dépendance irrévocable. Une dépendance irrévocable. Ça décrit cela de cette façon. Jacob appuyé sur l'extrémité de son bâton. Pour quelqu'un qui fallait être sélectif dans ses paroles, on a l'impression qu'elle inclut un détail banal et inutile. Pourquoi nous dire qu'il appuyait sur son bâton? Quelle utilité est ça? Pourquoi qu'il nous donne cette image? Parce que le bâton signifie la dépendance. Une dépendance permanente et irrévocable. Une dépendance à vie. Parce que depuis qu'il a lutté avec Dieu en Genèse, chapitre 32, ça nous dit que Jacob, il boitait de la hanche. Et le bâton, ça signifiait sa dépendance, son humanité, sa faiblesse qui était permanente et irrévocable. Une dépendance à vie. Une dépendance. Il a reçu la bénédiction de Dieu, mais il avait une dépendance. Car la foi est exprimée. Non seulement par une reconnaissance inébranlable, mais une dépendance irrévocable sur Dieu, une dépendance permanente. Peu importe le nombre d'années qu'on est sauvé, peu importe le nombre d'années qu'on vienne à l'Église, peu importe le titre que les gens peuvent nous donner, pasteur, président, diacre, ancien, leader, peu importe ce que les gens peuvent nous appeler, nous sommes toujours handicapés par notre nature pécheresse et nous avons toujours désespérément besoin de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Peu importe! C'est permanent, irrévocable. Moi, je suis à l'Église depuis mon enfance, depuis que je suis bébé. J'ai grandi à l'Église. J'ai fait tous les camps, les conventions, la jeunesse, l'éducation chrétienne. J'ai été à l'école biblique. Je suis dans le ministère depuis 20 ans. J'étudie la parole de Dieu. Je connais l'Église. Mais peu importe, j'ai une dépendance permanente sur le Seigneur Jésus-Christ. À tous les matins, il faut que je recherche la salle de prière parce que ma dépendance est permanente, c'est irrévocable. Je ne peux pas vivre un jour sans la présence de Dieu. La foi s'exprime par une dépendance irrévocable. Aussi longtemps, jusqu'à temps que le Seigneur ne revient pas pour nous chercher pour aller au ciel dans sa gloire, nous avons une dépendance sur lui. Moi, je peux tomber à n'importe quel jour. C'est pour ça que j'ai besoin de la grâce de Dieu parce que je suis conscient de ma dépendance, ma faiblesse et mon humanité. La foi s'exprime par la prière. Les gens qui se fient sur le Seigneur, les gens qui se dépendent sur le Seigneur parce qu'ils sont conscients de leur faiblesse et leur humanité. Irrévocable, permanente pour toute notre vie. Cherche la présence de Dieu. La foi est consciente que nous ne sommes rien qu'humains et nous avons besoin de Dieu en tout temps. La foi, c'est une conscience que nous sommes rien qu'humains. La réalisation qu'on est faible et ça nous pousse vers la prière. C'est pour cela, écoutez-moi, c'est pour cela qu'un des plus grands actes de foi que vous pouvez faire, c'est prier. C'est prier. À tous les jours, trouver ce lieu de prière. Fermer la télévision, l'ordinateur, la radio, le portable, vous renfermer dans une place avec Dieu, une pièce, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure, comme vous voulez. Mais à tous les jours, vous trouvez ce lieu de prière. Ça, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui est agréable à Dieu parce que vous êtes en train d'exprimer votre dépendance. J'ai besoin de Dieu. Et ce n'est pas long. On a juste à passer une journée dans le monde aujourd'hui. On a juste à être frappé par la condition humaine aujourd'hui et pour que ça crée une dépendance, une nécessité pour Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai besoin de la grâce et la sagesse de Dieu, la direction de Dieu, l'aide de Dieu, la force de Dieu. Je suis dépendant complètement et entièrement sur lui. La foi, comme l'adoration, comme la reconnaissance qu'on a fait exprimer ce matin, quand on s'est applaudi le Seigneur, on n'a pas applaudi parce que notre vie est parfaite, parce que tout est idéal, parce qu'on n'a pas de problème familial, parce qu'on est riche, on a un compte de banque rempli, on n'a pas de compte à payer, parce qu'on est en forme physique et on n'a pas de maladie. Pour les nouveaux ici ce matin, quand les gens ont applaudi le Seigneur Jésus, puis on poussait des cris de joie vers lui. Ce n'est pas parce que leur vie est parfaite, mais c'est parce qu'ils servent un Jésus qui est parfait. C'est un acte de foi. On acclame, on adore, on loue, peu importe ce qu'on passe en travers, parce qu'on sait que Jésus est digne de louange et d'adoration. C'est un acte de foi, la louange et l'adoration. La reconnaissance, de rendre grâce au Seigneur, c'est un acte de foi qu'on fait. Quand on vient à l'Église, quand ça va mal, quand on a la difficulté, quand on passe un moment de peine et de tristesse, mais le dimanche matin, on se lève de bonne heure quand même, on prend notre douche, on rase, on met notre habit, puis on vient à l'église quand même avec toute la famille, c'est un acte de foi. On va à l'église, vous savez ce qui se passe ici à l'église, ça ne change pas, vous savez qu'on va débuter avec un moment de louange, d'adoration, mais vous venez à l'église quand même, malgré la faiblesse, parce que vous faites un acte de foi. Je vais quand même aller à l'église et adorer avec la famille de Dieu, parce que peu importe ce que je passe en travail, mourant même, je vais bénir et adorer le Seigneur. Vous êtes ici par un acte de foi. Quand on prie à l'Église, quand on fait les réunions de prière le mercredi soir, quand on a des moments de prière ici dimanche, quand on vous encourage de prier, c'est un acte de foi. L'Église prie parce qu'on est dépendant sur Dieu. C'est une dépendance irrévocable, permanente. Adorer, prier, ce sont des actes de foi tangibles. Tout le monde peut pratiquer ça ici. C'est pour ça que j'ai dit, c'est rien d'extraordinaire. C'est pas pour des super-héros spirituels. On ne parle pas des exploits énormes. On parle d'un esprit de reconnaissance et une vie de prière. C'est faisable, ça? Mais c'est la foi agréable à Dieu. La foi agréable est exprimée par reconnaissance et dépendance. Quelqu'un m'a envoyé une carte électronique Dayspring dernièrement avec une petite vidéo d'un golfeur. Je ne sais pas pourquoi, là, mais... en train de frapper sa balle. Puis la capsule avec le golfeur qui était là, puis il frappait sa balle. La capsule sur la carte électronique était « La vie spirituelle est comme le golf. » C'est quelque chose que j'ai toujours cru, ça. La vie spirituelle est comme le golf. Pour réussir, il faut les genoux pliés et les bras étendus. Puis pour ceux qui jouent au golf, c'est vrai ça. Ils vont toujours dire, quand tu adresses la balle, il faut les genoux pliés et les bras étendus. Et c'est comme ça qu'on réussit au golf. Puis il dit, la vie spirituelle est comme ça. Et c'est justement ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux essaie de nous faire comprendre ici. Il dit, la foi... c'est les genoux pliés dans la prière et la dépendance. Et c'est les bras étendus dans la louange et l'action grâce envers le Seigneur. Et c'est une capsule et c'est une petite carte qui dit la vérité. La vie spirituelle, c'est les genoux pliés et c'est les bras étendus vers le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va voir le succès dans la vie spirituelle. Et c'est comme ça qu'on va manifester une foi qui est agréable au Seigneur. La dépendance et l'action de grâce. Et on a fait du chemin dans notre vie spirituelle. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est ce qu'il nous dit ici. Dépendance, reconnaissance. Dernièrement, troisième chose, troisième élément qu'on tire de cette histoire-là, c'est non seulement une reconnaissance inébranlable, non seulement une dépendance irrévocable, mais dernièrement, ça nous parle d'une obéissance illogique. Une obéissance illogique. La foi s'exprime parfois par une obéissance à Dieu qui est illogique, contraire à la logique, contraire à la tendance humaine, contraire à la nature humaine, contraire à l'opinion populaire. Une obéissance. Ce point-là nous amène à notre histoire même, où l'image est tirée. De toute la vie de Jacob, selon l'écrivain, c'est cette histoire qui capte la foi le mieux. L'écrivain d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, c'est trouvé en Genèse chapitre 48, si vous voulez regarder, sinon ça va être sur l'écran. L'écrivain aux Hébreux, il fallait qu'il réfléchisse sur la vie de Jacob. Il fallait qu'il pense, moi, il faut tirer de quoi sur la vie de Jacob qui démontre la foi. Puis inspiré par le Saint-Esprit de tout ce que Jacob a passé en travers, c'est cette histoire-là qui a capté la foi mieux qu'il n'y ait rien d'autre. Une histoire vers la fin de la vie de Jacob. C'est décrit en Genèse chapitre 48. On a sorti, on a tiré les versets nécessaires, on les a mis sur l'écran. Si on suit l'histoire, ça nous dit... Israël, ça c'est Jacob. Jacob et Israël, c'est la même personne qu'en Hébreux chapitre 11. Israël regarda les fils de Joseph. C'est Joseph qui amène les fils, ses fils, à leur grand-père pour qu'il impose ses mains pour l'emmener la bénédiction. Jacob regardait les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci? » Parce qu'il était aveugle, c'était vers la fin de sa vie. Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse et ne pouvaient plus voir. Joseph fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à gauche d'Israël et Manassa de sa main gauche à la droite d'Israël. Il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posait sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. C'est ici que ça devient un peu compliqué. Parce qu'il ne fait pas ce qui est normal. Là, Jacob, il va dévier de la tradition. Il pose sa main droite sur le plus jeune. Il n'est pas supposé. Il croise ses mains. Israël étendit sa main droite et posait sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posait sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posait ses mains comme ça. C'était pas une erreur de vieillesse. C'était par exprès qu'il a croisé ses mains. Car Manassé était le premier-né. C'est lui qui devrait avoir la main droite. Et Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de sur la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Et son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. » Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé, et il met Éphraïm avant Manassé. Jacob a croisé ses mains. Jacob est allé à l'encontre de la tradition, à l'encontre de l'opinion populaire, à l'encontre même de la volonté de son fils et sa famille. Il a fait quelque chose par exprès, par obéissance, qu'il était, selon Joseph, illogique. Enfin, il a pris la foi, Jacob. Enfin, il a pris l'obéissance. Vers la fin de sa vie, il a exprimé une obéissance malgré l'opposition. Après tout ce qui est passé en travail, la connivence, la rébellion, la manipulation, le mensonge, après toutes les années de faire les choses à sa manière, selon sa façon à lui, après avoir combattu pour ses droits et ses privilèges, selon les moyens humains, il a enfin devenu un homme transformé. Enfin, il a compris la foi. Parce que la foi, c'est d'obéir à Dieu et non à l'homme. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La foi, il a fait ce que Dieu voulait, non ce que Joseph voulait, non ce que lui-même voulait peut-être, non ce que la société imposait sur lui, non la tradition, il a fait non selon la façon de l'opinion populaire, il a croisé ses mains. Et quand il a croisé ses mains, c'était un acte physique avec une signification spirituelle. Parce que croiser, imposer les mains, la main droite sur le fils aîné, c'était pas juste par politesse, c'était pas juste par protocole, mais il y avait une signification. Quand il imposait la main droite, c'est pour ça que Joseph a dit, non, non, il faut que tu bénis mon fils aîné avec les mains droites. Ça, c'est la tradition, parce que la main droite signifiait la prospérité, la plus grande bénédiction. Ça signifiait une vie fructueuse. Ça portait une signification. C'était la suprématie. C'était l'autorité. Et au risque de déplaire Joseph, la famille, la tradition, a malgré que ça faisait des années qu'il faisait ça de cette manière-là. C'était la coutume et la tradition. Il a fait ce que Dieu voulait. Il a croisé ses mains. Malgré l'opinion populaire et la pression des hommes, il a croisé les mains. Il a béni la personne qui, normalement, ne recevait pas la bénédiction. Il a croisé les mains par un geste d'obéissance et d'amour. Et parfois, le Seigneur va nous demander de faire des choses qui sont contraires à l'opinion de votre famille et la pression de la société et la pression de la culture. Ils vont demander de faire des choses qui vont être renverses même de la logique, mais on le fait par la foi. Si Dieu nous demande de croiser nos mains, on va croiser nos mains parce qu'on sait que si Dieu nous demande et si Dieu nous le demande, on peut avoir confiance en lui et le faire, peu importe la réaction des autres. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est la obéissance parfois illogique. Contraire à la tendance de la société normale. Si Dieu me demande de le faire, je vais le faire. Non par rébellion, non par pour être différent, pour être remarqué, pour être mon propre homme, je vais le faire à ma façon pour que je sois remarqué, mais par obéissance, avec humilité, il faut faire ce que Dieu veut, peu importe ce que les autres peuvent dire. Je suis prêt à risquer, à mettre en péril ma vie, je suis prêt à risquer la colère, d'être mal compris, d'être jugé, même si c'est pas la tradition, même si c'est pas l'homme qui va dicter mes mouvements, c'est Dieu. Puis Jésus est le meilleur modèle de cela. Le meilleur exemple de cela, c'est Jésus, notre suprême modèle. Jésus passait son temps à croiser ses mains. Quand il était sur la terre, il n'arrêtait pas de croiser ses mains. Contraire à l'opinion populaire, malgré la pression de la foule, il passait son temps à bénir des personnes qui normalement ne recevaient pas la bénédiction. Jésus était là pour bénir les plus petits, ceux qui étaient à l'écart, ceux qui étaient marginalisés. Jésus était là pour eux. Il agissait des fois contraire à la logique, contraire à l'opinion populaire de son jour, contraire à l'élitisme religieux et culturel de son temps, mais il était là pour croiser ses mains. Je vais bénir les petits, je veux inclure les exclus, je vais aimer les non-aimés, je vais être près de ceux que personne d'autre veut être près, oh, je vais toucher les intouchables. Jésus passait son temps à croiser ses mains par obéissance à son Père. Puis les gens n'arrêtaient pas de remettre ses mains, comme Joseph a fait. Jacob a croisé ses mains. Qu'est-ce que Joseph a fait? Oh non, 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 c'est pas comme ça qu'on le fait, c'est la vieillesse. Alors il a pris les mains, puis il les reposé sur la bonne place. Jacob, il a fait ça. Joseph a dit, non, c'est pas comme ça qu'on le fait, c'est comme ça. Et là, il a repris ses mains, puis a essayé de les mettre les mains sur la bonne taille de bon fils et l'autre sur l'autre. Mais Jacob a dit, non, il faut que j'agisse comme ça. Et partout où Jésus allait, il y avait toujours des gens qui voulaient remettre ses mains à la bonne place. Il y a toujours qui disaient, oh non, non, on mange pas avec ces personnes-là. On touche pas ces personnes-là. Oh, faut pas fréquenter ces personnes-là. Ce sont des collecteurs de taxes et des pécheurs. C'est pas comme ça qu'on le fait. On mange pas comme ça le sabbat. Il voulait toujours mettre ses mains pour eux, ce qu'ils croyaient était à la bonne place. On guérit pas le sabbat. On n'inclut pas ces personnes dans notre cercle. Mais Jésus arrêtait pas de croiser ses mains, d'aimer les non-aimables, inclure les exclus. Il a reçu les rejetés. Il a touché les lépreux. Il a mangé avec les personnes méprisé par la société en général. Merci Jésus que tu bénis pas seulement à ceux qui méritent, mais tu bénis des gens comme Marc Lecomte qui ne méritent pas du tout. Jésus croise ses mains. Merci pour cela. Jacob a béni le jeune qu'il ne méritait pas. Jésus, c'est le meilleur exemple. Malgré ce que les autres pouvaient dire, il croisait continuellement ses mains. Il faisait ce qui n'était jamais fait auparavant. Il a ouvert le cercle. Il a inclus d'autres dans la famille de Dieu. Par exprès, comme Jacob. Ça dit Jacob, avec intention, il a posé ses mains comme ça. Il voulait bénir le jeune par exprès. Non par hasard ou accident. Nous avons besoin des gens dans l'Église qui vont agir comme Jésus, avec intention. Par exprès, on va croiser nos mains et bénir ceux qui ne sont pas normalement bénis, d'une façon très intentionnelle. Remarque le ministère de Jésus. Il croisait ses mains quand il a inclus les exclus. Comme les femmes, Jésus a beaucoup valorisé et inclus les femmes, et c'était par exprès, parce que les femmes étaient exclues souvent dans la culture juive du temps méditerranéen. Les femmes étaient deuxièmes sur l'échelle, mais Jésus a fait par exprès d'inclure les femmes. Il a croisé les mains pour bénir les femmes et les donner une place que la société ne les donnait pas. C'était une façon de croiser ses mains. Le premier évangéliste dans les évangiles, c'était une femme. Jésus a inclus et valorisé les femmes. Femme, c'est une façon de croiser ses mains. Et tous les femmes disent
Amen.
Il croisait ses mains. Croisait ses mains. Jésus n'arrêtait pas de se tenir avec les pauvres et bénir les pauvres, être avec les pauvres et penser aux pauvres. Il a croisé les mains, pas avec les élites, mais avec les pauvres. Et tous les pauvres disent,
Amen.
Moi en premier, Amen Seigneur. Jésus aime les pauvres. Les enfants, comprenez quelque chose. Dans le temps de Jésus, dans cette culture gréco-méditerranéenne juive, l'enfant n'était pas roi comme aujourd'hui. L'enfant mène aujourd'hui. Pas là. L'enfant était souvent négligé. L'enfant était vu comme inutile. Les enfants étaient les derniers sur l'échelle sociale du temps. Puis encore des endroits dans le monde qui ont cette même perspective. C'est pour ça que les disciples ont renvoyé les enfants. Hé, père, t'es rien que des enfants, t'as pas d'affaires à voir. C'est pour ça que les enfants voulaient, puis les parents voulaient qu'ils bénissent les enfants. Oh, Jésus, il n'y a pas de temps pour les enfants. Les enfants, ils contribuent rien à la société. Les enfants, c'est les petits sur l'échelle, là. On va les renvoyer. Le maître, il n'y a pas de temps pour les enfants. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a repris ses disciples, il a croisé ses mains encore une autre fois. Il dit, moi, je suis pas ici seulement pour les adultes, je suis ici pour les enfants. Et non seulement qu'il a reçu les enfants, ça dit qu'il les a pris entre ses bras comme ça, il les a saisis, il les a embrassés, il a mis les enfants sur ses genoux, il a imposé les mains sur eux, il les a bénis. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de croiser ses mains. Il est en train de bénir ceux qui n'étaient pas bénis dans ce temps-là. Ça, c'est le Seigneur qu'on sert aujourd'hui. Il veut que personne soit exclu. Il dit, ah ouais, envoie tout le monde, envoie les enfants à moi. Non seulement que je vais les bénir, mais je vais les prendre entre mes bras parce que j'aime les enfants. Le royaume de Dieu est rempli d'enfants. Jésus aime les enfants, les petits. Il n'arrêtait pas de croiser ses mains. Il était avec les païens, avec les gentils, avec les non-religieux, avec les veuves. Jésus a croisé ses mains quand il aimait les non-aimés, les non-aimables, les non-aimés, les lépreux, les pécheurs, les collecteurs de taxes. Il a touché les intouchables. Ce que les autres étaient scandalisés. Jésus touchait les malades. Il touchait les lépreux. Il touchait les impurs. Les lépreux qu'il fallait crier. Impur, impur, unclean, unclean. Afin que tout le monde s'éloigne de eux. Touche-moi pas. Je suis impur, je suis impur. Les plus méprisés de la société. Jésus a eu l'audace de toucher ces personnes-là, qui a scandalisé les autres, mais il les a touchés parce qu'il avait besoin de lui. Jésus a croisé ses mains pour toucher les non-touchables, pour les lépreux, pour les malades. Ça, c'est le Seigneur qu'on sert. Il va aller vers ceux qui disent, impur, impur. Jésus est là pour eux, afin de les guérir, afin de les purifier, afin d'apporter un ministère envers eux. Êtes-vous content que notre Seigneur est un Seigneur qui croise ses mains? La femme avec la perte de sang qui a touché Jésus, ça c'est un scandale. Quand une femme perdait son sang une fois par mois, elle était mise à l'écart, elle était impure. Ça nous dit qu'elle était mise à l'extérieur du camp. Mais cette femme-là perdait le sang perpétuellement. Depuis 12 ans, elle perdait du sang. Ça veut dire que depuis 12 ans, elle était impure, intouchable, mise à l'écart. Et elle était fatiguée, étonnée de cela. Puis elle dit, je vais oser faire quelque chose que je ne suis pas supposée de faire. Une femme qui perd du sang était mise à l'écart. Mais elle a dit, je vais toucher, si je peux juste toucher sa robe, pas la peau, mais au moins la robe, parce qu'elle savait que c'était quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Et quand elle a touché, les autres ont été scandalisés. Elle a tremblé parce qu'elle a touché un homme dans son impureté. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, « T'as bien fait. » Il dit, « Et par ton acte de foi, tu es guéri. » Il n'était pas scandalisé par ça, parce qu'elle avait besoin de lui. Jésus a touché les non-touchables. Il a croisé ses mains encore une autre fois. C'est ce que Jésus conseille. Il portait l'attention aux personnes négligées. La femme samaritaine méprisée de Jean 4, un méprisé parmi les méprisés, les aveugles, lis les histoires des évangiles, les aveugles étaient toujours sur le côté du chemin, puis il fallait toujours qu'ils crient, hey, attention à moi, puis les gens voulaient toujours les taire. T'es rien qu'un aveugle, t'es un mendiant. Tais-toi! Mais Jésus portait toujours attention à eux. Toujours. Il croisait ses mains. Toujours. Bénir ceux qui n'étaient pas bénis dans la société. Croisait ses mains, les non-religieux, les opprimés, puis mangeait avec eux. Manger dans ce temps-là, c'était significatif, ça. C'était les accueillir à la table. Il les donnait une valeur. Mange avec moi. Wow! Quelle sorte de Dieu qu'on sert? Un Dieu qui invite les méprisés, les opprimés, les sales, les impurs, les marginalisés, les perdus, les découragés, à s'asseoir à la table avec lui, le Fils de Dieu. Il n'arrêtait pas de croiser ses mains. Et tout le monde voulait les remettre à la bonne place, mais Jésus refusait. Il dit, c'est ces personnes-là qui ont besoin de l'amour de Dieu. Qu'on peut avoir une église remplie des milliers de personnes qui vont quitter et vont commencer à croiser leurs mains et bénir les gens et aimer les gens, aller vers les gens, prendre un café avec les pécheurs, parce que les pécheurs ont besoin de Dieu, comme vous avez besoin de Dieu, parce que vous êtes pécheurs aussi, qu'on peut aimer les gens comme Jésus aimait les gens. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Bénir, bénir, être là. C'est ce que Jésus faisait, c'est un acte de foi. Il allait où personne d'autre allait, comme le démoniaque de Gadara, où Matthieu nous dit, personne n'a osé passer par là. Jésus a osé passer par là. Il allait où personne allait. Il croisait ses mains. Il bénissait ceux qui n'étaient pas bénis dans la vie, ceux qui ne pouvaient rien faire pour lui de retour. Il y a des écrivains théologiens qui décrivent le ministère de Jésus comme le renversement du statut social. Status reversal. Il renversait le statut social, Jésus, comme une mission intentionnelle de Christ. Il enseignait à agir contraire à la tendance humaine logique, pour renverser les préjugés du jour, pour élever les personnes basses et descendre les hautains, pour valoriser les méprisés, les négligés, les exclus et les inclus comme membres de la famille, les donner une place à la table. Jésus vivait dans un monde préoccupé par statut, classe, hiérarchie. Les gens obtenaient des privilèges selon le nom de la famille, la richesse, leur poste, leur titre, leur éducation, la pureté de leur race. Ceux qui n'étaient pas à la hauteur étaient mis de côté, rejetés, insignificatifs. C'était une société de « eux et nous » divisés. Mais Jésus a renversé tout cela. Parce que Jésus a enseigné « eux, c'est nous ». On est nous et eux ensemble. Et toute personne a accès à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il n'y a pas d'hiérarchie, d'élite, de classe, de statut, de riche, de pauvre. À la croix, nous sommes tous égaux et nous avons tous accès à l'amour de Jésus-Christ parce qu'il n'arrête pas de renverser et de croiser ses mains. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça, c'est une manifestation de la foi. Pour cela que Jésus a débuté son ministère en Galilée et non en Jérusalem. Jérusalem était le centre de l'univers, de l'importance, mais il a débuté en Galilée. Ville de pêcheurs, de paysans non éduqués, pauvres. C'était pas logique pour avoir un impact mondial. Il faut débuter ça à Jérusalem pour avoir un ministère reconnu et renommé. Mais il a fait par exprès, par intention, parce qu'il voulait les éloigner d'abord, les petits d'abord, les méprisés d'abord, Galilée, Nazareth, il voulait les inclure d'abord avant d'aller vers Jérusalem. C'était son style, une façon de croiser les mains, de bénir les petits d'abord. Jésus rassemblait toutes ces personnes-là, le ministère d'inclusion. Non seulement qu'il agit avec les mains croisées, mais enseigné de cette façon aussi. Je termine dans quelques instants, mais écoute juste quelques façons que Jésus enseignait, puis dis-moi, c'est pas illogique, ça. C'est mieux donner que recevoir. Il faut donner pour devenir riche. C'est logique, ça? Nous, on pense qu'il faut ramasser. Aime ton ennemi. Aime ton voisin. C'est souvent la même personne. Aime ton ennemi. Quoi? Prie pour ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te maltraitent. Oui, mais c'est pas logique. Il faut plutôt battre, défendre, avoir la vengeance. Il dit, prie pour eux. Bénis ces personnes, fais du bien. Si quelqu'un te frappe sur une joue, laisse-les frapper l'autre. S'il te demande de marcher 1 mille avec lui, marche 2. Fais plus que ce qui est demandé. Fais plus, fais l'extra. Aime les non-aimés, aime les méprisés, aime les seuls. Assure-toi d'inviter chez toi ceux qui ne peuvent pas te bénir, ceux qui ne peuvent pas te réinviter ou te remettre la faveur ou te repayer. Il dit, bénis les personnes qui ne peuvent jamais te bénir. C'est comme ça que Jésus enseignait. Ne fais rien pour avantage personnel. Ne fais rien pour être à la vue des gens, pour attirer l'applaudissement des hommes. Ça ne fait rien de ça. Sois un ami pour ceux qui n'ont pas d'amis. Fais tes bonnes œuvres en secrète. Oui, mais quel avantage, ça! Pas de reconnaissance, pas d'appréciation, pas de tape dans le dos. Qu'est-ce que ça va donner comme ma réputation? J'ai aucune récompense pour ça. Jésus a dit, fais tes bonnes œuvres en secret quand même. Il dit, le plus grand devrait être le serviteur de tout. Laver les pieds des autres. Il faut donner sa vie pour gagner sa vie. Il faut pardonner 70 fois 7. La même offense. C'est illogique. Pardonner à ce point-là. Mais c'est ce que Jésus a enseigné et c'est ce qu'il a pratiqué. Une des scènes les plus puissantes dans le film, La Passion de Christ. Une des scènes les plus marquantes dans le film, c'est après tout ce que Jésus a passé en travers, toute la massacre et l'horreur et la profanité, la moquerie, le blasphème, toute la douleur des clous dans ses mains, tout le sang qui coule. Une des scènes qui a le plus d'impact sur moi, c'est quand il arrive quand même à juste exprimer ses paroles. Père, pardonne-leur leur offense. Wow! Après tout ce qu'il a vécu, pardonne, c'est pas normal, c'est pas logique. Vengeance, colère, condamnation. Jésus aurait dû dire, attends le jour du jugement, tu vas voir. C'est ce que j'aurais fait, moi. Il avait la capacité de le faire. Pardonne-leur. Quoi? Croisez les mains encore une autre fois. Il a béni ceux qui ne méritaient pas, ceux qui l'ont offensé, ceux qui ont péché contre lui. Puis moi, ça me bénit parce que s'il y avait l'espérance pour ceux qui l'ont mis sur la croix, il y a l'espérance pour Marc Lecomte aussi. Parce que moi, je suis un pécheur, puis c'est mes péchés qui sont mis sur la croix. Et quand Jésus a dit « Pardonne-leur leur offense », il parlait de Marc Lecomte. Parce qu'encore une autre fois, il a croisé ses mains pour mettre sa main sur ma tête et me bénir. Et si vous êtes là, c'est parce que Jésus a pardonné vos offenses. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il croise ses mains, il croise ses mains, il croise ses mains. Il bénit ceux qui ne méritent pas. C'est le Seigneur qu'on sauve. C'est le Seigneur qu'on sauve. Croise ses mains, il a croisé ses mains à la croix encore une autre fois. Savez-vous, c'est quoi la définition de la grâce? La faveur de Dieu non méritée. La faveur de Dieu non méritée. Une obéissance illogique. Il faut qu'on apprenne à vivre contre la culture quand la culture est contraire à la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la foi. On va vivre contre la culture quand la culture et contre la parole de Dieu. C'est ce que Jacob a fait, contre culture, contre tradition. L'opinion populaire du monde aujourd'hui, soit le soi en premier, mes intérêts d'abord, mes droits avant tout, ma réputation, la préservation de mes richesses, mon argent, mon avenir. Vive pour aujourd'hui, sois cool et tiens-toi avec les cools. Bénis ceux qui vont te bénir en retour. Faut battre pour ton poste, exerce la vengeance. Faut vivre la vie, suivre ton cœur. Sexe et sensualité remplacent sanctification. Le mensonge est toléré, même attendu de certaines personnes. Comme les pharisiens étaient préoccupés de promotion de soi-même, richesse personnelle, le prestige, l'exclusion des petits et des pauvres. Mais il faut aller à l'encontre et vivre contraire. Il faut vivre non selon la culture, qu'est-ce que la culture exige, qu'est-ce que l'opinion populaire demande. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et des fois, vivre selon la parole de Dieu, c'est vivre différemment que tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est vivre différemment, des valeurs différentes, des habitudes différentes, des routines différentes, un style de vie qui est différent, parce qu'on exerce et manifeste la foi, qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Peu importe ce que les autres peuvent dire, je vis pour le Seigneur Jésus-Christ, et je suis fier de cela. Il y avait un bracelet qui était populaire il y a quelques années, peut-être encore aujourd'hui, WWJD, un bracelet surtout pour les jeunes, qui était une bonne question, WWJD. En anglais, ça disait « What would Jesus do? » Que ferait Jésus? Moi, je pense que c'est une bonne question. Moi, je préfère « Que fait Jésus? » que fera Jésus? » parce que Jésus fait encore aujourd'hui, il est vivant. Mais la réponse à cette question-là, « What would Jesus do? » C'est une bonne question, ça, demander à tous les jours. Que fera Jésus? Que fait Jésus dans cette situation-là? Mais la réponse est souvent le contraire des tendances normales, des tendances égoïstes, des tendances de la société. C'est souvent croiser les mains pour bénir les pauvres, inclure les exclus, regarder pour voir qui est triste et seul, accueillir les rejetés. Tous sont le bienvenu, chercher la personne la plus nerd, la plus exclue, la plus seule de tout et l'inclure dans le cercle. Dans votre cercle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sans rejet, les peuples, la religion populaire, les grands dans le temps de Jésus. Donnait valeur aux petits, aux pauvres, aux indignes. Mais quel modèle de la foi. Merci Seigneur qu'il a croisé ses mains pour moi. Puis bien des moments que les gens vont tenter à décroiser vos mains et dire non, c'est pas comme ça qu'on le fait. Tu ne devrais pas faire ça. Ça, c'est radical, ça. Fais ceci, fais ça. C'est pas la logique, c'est la tradition ne dit pas. À un moment donné, on est tous responsables pour être à l'écoute de Dieu. Bénir ceux que Dieu a choisi de bénir, faire ce que Dieu nous demande de faire, peu importe ce que les autres disent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-tu logique d'aller à l'école biblique? Les gens qui vont aller à l'école biblique, il y a des gens qui disent, allez à l'école biblique, allez dans le ministère. Pourquoi dans le ministère? Tu peux faire l'argent, toi, comme un gérant. Frank Slovic et Camille quittent la France pour dépenser de l'argent, pour suivre ici, aller à l'école biblique, pour entrer dans le ministère. C'était gérant d'un business là-bas qui aurait pu faire beaucoup d'argent. Pourquoi quitter la France pour suivre l'école biblique, pour aller dans le ministère? Tu ne vas jamais gagner de l'argent comme dans la business. Il vient d'apprendre ça, là. Là, il réfléchit. C'est-tu logique, ça? Combien de personnes viennent à l'école biblique et sont découragées par bien des gens? Ah non, il n'y a pas d'opportunité dans le ministère, tu ne vas jamais faire de l'argent dans le ministère, il faut faire ta vie, aller dans le ministère, c'est gaspiller tout ça. C'est pas logique, c'est vrai, mais qu'est-ce qui nous pousse à rentrer dans le ministère quand même? On peut gagner beaucoup plus ailleurs. C'est parce que quelque part, il faut croire Dieu, il faut aller contre. C'est quoi la logique d'aller en mission? Souffrir quand on est tellement à l'aise ici au Québec, souffrir en Haïti, en Afrique, dans une mission, à quelque part. C'est quoi la logique? Parce que quelque part, on croise nos mains. C'est quoi la logique de quitter notre emploi quand on a un revenu sécure pour entrer dans le ministère comme mon père a fait quand j'avais 12 ans? Il y avait la sécurité, sécurité permanente. Il y avait un bon emploi. On avait belle maison, bien des belles affaires, mais il l'a quitté pour mettre dans le ministère. Puis il fallait vendre une de nos autos, puis il fallait vendre la maison, puis aller dans une maison plus petite. Et les gens disaient, qu'est-ce que tu fais là, quitter ton emploi, la sécurité, ton poste, ton avenir pour partir une petite église au nord de Montréal? C'est pas logique, mais il a croisé ses mains, il a obéi au Seigneur, et le Seigneur l'a béni, et béni l'église, et a servi de modèle pour moi, et Pasteur Claude et d'autres, parce que quelque part, oui, c'est vrai, c'était pas logique de faire ça pour faire l'autre affaire, mais il a tout simplement obéi à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, le Seigneur va bénir. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Croisez les mains, croisez les mains. Obéissance est logique. Qu'est-ce qui pousse Stéphanie Reeder-Poirier de quitter son emploi et le doctorat et toute la possibilité de faire bien, bien de l'argent, puis de renommer un peu partout, de donner des enseignements, puis le bio, je ne suis pas certain quoi, là, bio quelque chose ou un autre, là. C'est pas ma domaine. Biothéologie. Partir tout ça, s'impliquer dans le ministère, s'occuper des dames de l'Église. Il y a des gens qui vont dire, « Ouh, folle, faire ça. Pourquoi mettre ça, juste abandonner ça pour ça ici? » C'est parce que Dieu l'a demandé de le faire. Puis on a des centaines d'exemples de cela dans l'Église, des choses qu'on fait que ce n'est pas logique, mais c'est croiser les mains, l'obéissance à Dieu et le Seigneur béni. Logique qu'un adolescent s'abstient de l'activité sexuelle dans une société qui glorifie le sexe, ridiculisé pour aller à la jeunesse au lieu d'aller au party, manquer la vie de party pour suivre le Seigneur, attendre au mariage pour jouir de la sexualité. C'est-tu logique, ça, dans la société sensuelle qu'on a aujourd'hui? Croisez les mains, on veut obéir à Dieu. C'est-tu logique payer les dîmes et nos offrandes quand nous avons des besoins de notre nécessaire? Jésus pensait que oui, parce qu'il nous donne l'histoire, le veuve qui a démis ses 2 cents, puis Jésus a dit, tu vois, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'est le diapo numéro 24. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Ça, c'est quelque chose contraire à la logique ici. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vient aussi une pauvre veuve. Il a mis 2 petites pièces. Faisait 1 quart de sou. Alors Jésus a appelé les disciples et dit, viens voir ça, viens voir ça. Ça, c'est un acte de foi, là. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Illogique, ça. C'est illogique de donner de notre nécessaire. Payer nos dîmes, donner nos offrandes fidèlement, à partir de notre nécessaire, à partir de nos... Mais Jésus n'a pas dit aux veuves, arrêtez, c'est trop! Il dit, elle va être bénie pour ça. C'est un acte de foi. Merci pour ces héros de foi dans l'Église. Des centaines et des centaines qui payent leurs dîmes et leurs offrandes à toutes les semaines. vous pouvez acheter d'autres choses avec ça. Vous avez des besoins, vous avez des comptes à payer, mais vous donnez parce que c'est obéissance à la parole de Dieu. C'est fidélité à la parole de Dieu. Vous donnez petit ou vous donnez grand somme, peu importe vos moyens, mais vous donnez fidèlement. Vous êtes les héros de la foi pour moi. Malgré la pression économique, vous êtes fidèles dans vos dîmes. Vous êtes fidèles pendant le temps de vacances. Vous êtes fidèles à l'été. Vous donnez. Vous êtes fidèles. Vous semez. Vous donnez action nouvelle vie. Ça, c'est de bénir les pauvres, bénir les personnes qui n'ont pas les moyens. C'est de partager nos ressources quand vous donnez à l'Église. C'est de donner aussi aux personnes qui sont en besoin, à l'évangélisation, à la prédication de la parole. Vous êtes comme le veuve. Vous donnez de votre nécessaire. Les gens vont dire, c'est pas logique ça, donner de votre nécessaire. C'est pas logique. Paye les autres choses avant que tu donnes. Mais elle a donné de son nécessaire. Moi, je sais, après toutes ces années de ministère, que l'Église est remplie des héros de la foi qui vont donner à partir de leur nécessaire. Et Jésus remarque cela. C'est croiser les mains. C'est de bénir les autres. Et le Seigneur va vous bénir. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça me fait rire quand j'entends les annonceurs de sport dire, oh, Tiger Woods, la pression est sur lui aujourd'hui. Il faut absolument qu'il gagne une autre majeure. Il devrait ressentir la pression. Ils vont parler de Martin St-Louis Hockey ou Iguinla ou un autre. Puis comme si les athlètes, ils ont grande pression sur eux. Des héros qui sont capables d'absorber la pression. Tiger Woods, la pression, il fait 50 millions de dollars par année. Donne-moi cette pression si vous voulez. Fais-moi pas rire. Des joueurs de sport qui connaissent la pression avec des salaires, des millions, et on les appelle nos héros parce qu'à cause de la pression. Vous voulez savoir c'est quoi un héros? La pression, c'est un homme qui gagne 30, 40, 50 000 par année. Il faut qu'il paye ses comptes. Il faut qu'il pourvoie pour sa famille. Il essaie de vivre une vie disciplinée. Et il paye ses dîmes quand même. Et il donne à l'Action Nouvelle Vie. Ça, c'est la pression. Ça, c'est un héros de la foi. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Ça, c'est un vrai homme. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut admirer. Ça, c'est quelqu'un que j'admire. On ne gagne pas des salaires à tout casser, mais on donne quand même. On est fidèle quand même. Peu importe, on va donner, on va mettre le Seigneur en premier parce qu'on croise nos mains. On croise nos mains comme le veuve a croisé ses mains. C'est une obéissance illogique. Les gens vont dire, il ne faut pas faire ça. Mais on le fait. Puis après toutes ces années de ministère, je remarque que quand on donne, le Seigneur nous bénit. C'est l'obéissance illogique. On partage nos ressources. Qu'est-ce qui pousse le ministère des ados de visiter par année des personnes âgées? Maxime Barrette, qui est responsable du ministère des ados, qui vont par année des personnes âgées ici à l'Église. C'est un ministère pour mobiliser les adolescents pour visiter auprès de 28 personnes au manoir Trinité de Longueuil, avec une intention de multiplier les centres et les visites envers les personnes âgées. Juste pour avoir des ados visiter les personnes âgées, pour être à l'écoute, pour vaincre la solitude, pour les aimer, pour les divertir par des sorties, pour être à leur côté, parce qu'il y en a des milliers de personnes âgées qui souffrent dans la solitude dans nos centres de personnes âgées. Et Maxime a mobilisé la jeunesse et les ados pour aller par année quelqu'un, un ado avec une personne âgée, juste pour être là, juste pour les faire du bien, juste pour les bénir. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'ils font là les ados? Pourquoi un ministère comme ça? Il faut qu'ils vivent la vie. Il faut qu'ils passent le temps avec les gens de leur âge. Il y a d'autres choses à faire que passer du temps avec une personne âgée. Qu'est-ce qui pousse un ado de visiter quelqu'un comme ça qu'il ne connaît pas, juste pour être son ami? C'est un adolescent qui veut croiser ses mains, aller à l'encontre de la tendance culturelle et le soi et l'ego, et dire, moi je vais investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Moi je vais croiser mes mains comme Jésus a croisé ses mains. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Et le Seigneur nous appelle tous et chacun, cette semaine, à partir de cette église, puis d'une façon intentionnelle, pas par accident ou par hasard, de dire, quelle façon que je peux exprimer la foi aujourd'hui? Quelle façon que je peux croiser mes mains? Qui que je peux bénir? Qui que je peux inviter? À qui que je peux témoigner? À quoi que je peux donner? Quelle façon que je peux exercer la grâce, la faveur, l'amour, la gentillesse? Qui que je peux pardonner aujourd'hui? Qui que je peux déverser la grâce? Je regarde la rancune contre quelqu'un, ça fait longtemps. Cette semaine, je le pardonne comme Jésus a pardonné. Je vais faire quelque chose d'illogique pour bénir, pour donner, pour obéir, sanctifier ma vie, mettre les choses en règle, parce que je vais être quelqu'un non d'une croyance, mais d'une foi. Est-ce que je peux entendre l'amen à cela? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va chanter brièvement un chant pour terminer ce matin. Le chant qui dit, Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je veux t'obéir. De tout ce que je veux, Seigneur, tout ce que je veux, c'est t'obéir. Moi, je vous demande de prier une prière simple et claire pour terminer l'assemblée ce matin. La prière, on va les mettre sur l'écran, nos trois prières. Seigneur, je veux démontrer et exprimer la foi par une reconnaissance inébranlable, par une dépendance irrévocable et par une obéissance illogique. Est-ce que c'est votre prière? Est-ce que je peux voir vos deux mains levées si c'est votre prière? Dis oui, c'est ça. On lève nos mains vers le Seigneur comme un acte de soumission, d'obéissance. Est-ce que ces trois choses-là, c'est votre prière? C'est à la portée de tout le monde, ça. Une reconnaissance inébranlable. Je m'engage à cela, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Une dépendance irrévocable. Je vais trouver une place pour prier tous les jours. Je vais me fier sur toi et pas sur moi. Puis je vais exercer une obéissance illogique. Je vais aimer et donner et faire. Je vais mettre Jésus en premier et pas moi-même. Je vais obéir à la Bible et non à la culture. Je vais vivre dans la sanctification, dans une société sensuelle et perverse. Je mets les autres devant moi. Je vais servir pour devenir grand. Je vais perdre ma vie pour la gagner. Je vais commencer à pratiquer la parole de Dieu. Peu importe ce que les autres peuvent dire. Est-ce que c'est votre prière? Si oui, je vais vous demander, levez vos mains, vos voix avec moi et chantez ce chant qu'il va nous conduire comme notre prière. Seigneur, tout ce que je veux, c'est t'obéir, c'est d'être près de toi. Chantez-le tous ensemble comme une prière de conclusion ici ce matin. Chantez-le. Chantez-le comme une prière d'engagement. On veut être les gens de la foi. On veut être les héros de la foi.
Tout mon cœur,
merci Seigneur pour les hommes et les femmes de foi. On s'engage à l'obéissance. On s'engage à l'action de grâce. On s'engage à la prière. C'est notre chant, chantez-le.
Tout ce que